pour cette deuxième partie de la matinée. Et on a le plaisir d'écouter, donc, pour cette partie consacrée à des univers inscrits dans le temps, d'abord Isabelle Pantin, qui est professeure de littérature française du XVIe siècle à l'ENS, hein, au département Lila, et ancienne directrice adjointe de l'IHMC. Donc, elle enseigne la littérature de la Renaissance et l'histoire du livre, et à côté de ses spécialités de recherche, mais en lien avec celle-ci, puisqu'elle travaille sur l'histoire de la cosmologie au début de l'époque moderne et les relations entre littérature, philosophie et science, eh bien, elle est aussi l'auteur d'un des grands textes critiques français récents sur Tolkien, Tolkien et ses légendes, qui est paru aux éditions du CNRS. Voilà, et donc elle va nous parler de Tolkien.
Alors, merci beaucoup. Alors, ma contribution va rencontrer, en fait, les thèmes des deux précédentes, mais avec une perspective beaucoup, beaucoup plus étroite. Et donc, parmi les genres, les auteurs de genre de l'imaginaire, Tolkien fait partie de ceux qui ont ressenti très profondément la tension interne entre fantasy et histoire, tension féconde, mais aussi source d'interrogation. C'est pourquoi il s'est efforcé de réfléchir justement à la complexité de la relation entre ces deux pôles de son œuvre, en particulier dans ses textes critiques, hein, sur le poème Beowulf et sur le conte de Féerie. Alors, pour le dire vite, Tolkien percevait entre fantasy et histoire tout à la fois une nette opposition et une parenté profonde. Nette opposition d'abord, hein, comme spécialiste des langues et littératures anciennes du nord-ouest de l'Europe, et aussi comme auteur de fiction, il était profondément hostile à une possible mainmise des historiens et autres spécialistes des sciences humaines sur ce qui relevait d'abord de la création littéraire. S'intéresser à des œuvres de fiction pour leur valeur documentaire et les voir comme des vestiges, donc c'était dénier leur singularité et leur ôter la vie. S'agissant de ses propres livres, hein, il s'opposait avec la même énergie à cette forme d'approche instrumentalisante consistant à y chercher un message, hein, sur l'histoire contemporaine. Et d'autre part, il se disait tout à fait étranger à la catégorie du roman historique, celui qui insère une action fictive dans la représentation censément fidèle d'une époque précise. En somme, l'œuvre de fantasy, dont il donne une définition dans son essai sur le conte de Féerie, n'était pour lui en aucun cas, à aucun degré, quel que fût son sujet ou sa date d'écriture, une servante ou une parasite de l'histoire. La fiction ne devait être assujettie à aucune exigence de documentation et d'exactitude, et sa signification, comme son principe d'inspiration, ne devait pas être recherchée à l'extérieur d'elle-même. C'est si vrai que le titre que j'ai proposé, L'histoire au miroir de la légende, n'aurait sûrement pas été approuvé par Tolkien sans correctif et mise en garde. Pris au sens propre, hein, il semble dire que la légende vise à donner un reflet de l'histoire, position vraiment inacceptable pour lui. Pourtant, il aurait sans doute admis la formule à condition qu'elle fasse allusion à un dispositif comme le miroir de Galadriel, c'est-à-dire un moyen féerique donnant à certains, selon leur personnalité singulière, accès à un temps autre, temps qui pourrait cependant, au moins indirectement et par élimination, être dit historique, car il n'est pas purement imaginaire et n'appartient pas à d'autres planètes, hein, mais à la Terre du milieu, donc la nôtre. Ici, on est ramené vers l'autre aspect de la question, la parenté profonde chez Tolkien entre fantasy, oui, je veux bien. Merci. Entre fantasy et histoire. cette parenté tenait d'abord à lui-même. Hein, l'auteur du Légendarium avait, de son propre aveu, une tournure d'esprit d'historien, donc il l'a dit, et notamment à propos de sa fiction. Pour lui, selon l'essai sur le conte de Ferry, l'œuvre de fantaisie doit posséder une consistance et une cohérence intrinsèque aussi forte que celle que nous donne dans le monde réel la conviction que notre expérience n'est pas un rêve. Or, c'était bien en grande partie son intelligence, son savoir et sa sensibilité d'historien qui lui donnaient les moyens de parvenir à un tel résultat. C'est pourquoi son Moyen-Âge n'est pas simplement frotté d'un peu de couleur locale, il possède une justesse de détail, une complétude et une profondeur qui lui donnent son évidence, bien que ce Moyen-Âge, évidemment, paradoxalement, ne soit pas chronologiquement situé. Cette tournure d'esprit d'historien avait aussi un lien avec la métaphore majeure exprimant la façon dont Tolkien percevait non seulement sa propre création, mais tout l'univers des langues et le vaste réseau des contes et des fictions. Donc cet amoureux des... cette métaphore de l'arbre, venant de cet amoureux des arbres du monde réel, qui était également passionné dans tous les domaines par les racines, l'écorce, les ramifications par lesquelles la sève circule des profondeurs vers les hauteurs. L'arbre était pour lui l'expression la plus juste et en même temps une preuve visible du lien vivant entre passé, présent et futur, c'est-à-dire à certains égards de leur coexistence. Enfin, Tolkien jugeait arbitraire, artificielle et grossière la distinction couramment faite entre l'historique, le légendaire, et le mythique, ou le folklorique, ou le fantastique. Sous sa plume, dans ses textes critiques et sa correspondance, on trouve souvent les couples, légende et histoire, histoire et mythe, légende et mythe, pour reconnaître à la fois la double nature d'une réalité complexe et la difficulté d'en distinguer clairement les termes. Donc je vais m'intéresser un peu à la conférence sur le poème Beowulf. Cette conférence démontre les conséquences désastreuses pour Tolkien du préjugé académique qui met l'histoire, la légende héroïque et le fantastique des contes dans des tiroirs séparés, auxquels on devrait attribuer des valeurs différentes. C'est en particulier la source de l'aveuglement des critiques de Beowulf, incapables de comprendre le sens du poème et la beauté de son organisation, donc organisation qui donne au monstre le premier plan, la première et la dernière action de Beowulf, jeune et vieux, au détriment de la matière historique qui sert simplement de décor. L'auteur du poème, qui situe l'action dans la Scandinavie païenne, met en œuvre, dit Tolkien, un vrai savoir historique basé même sur une sorte de curiosité d'archéologue, comme en témoignent les détails qu'il donne sur les rites païens, bûchers funéraires et ensevelissement en mer. Tolkien le compare à cet égard à Virgile pour mieux faire ressortir ce paradoxe. Si le poète de Beowulf a possédé non pas seulement un savoir, mais surtout et aussi une vision historique, et a su transmettre cette vision, c'est parce qu'il était justement un grand poète et qu'il a compris qu'en incluant dans sa peinture des éléments tirés d'anciens contes, il créerait mieux, dans l'esprit de ses contemporains, l'illusion de balayer du regard un passé qui lui-même avait de la profondeur et touchait en arrière, je cite Tolkien, une sombre et tragique antiquité. Il explique que l'auteur de Beowulf écrivait pour un public qui avait en mémoire le passé des Geats, ces Goths hein, de Scandinavie, et de leur guerre avec les Suédois et les Francs au début du VIe siècle. Cette histoire, mêlée de légendes, fournit donc le décor sans qu'il soit besoin de développer. Tandis qu'au centre est une figure de héros, d'autant plus saillante que ses combats contre des monstres de féerie lui donnent une dimension mythique. Et c'est tout ce dispositif qui crée l'effet de perspective plongeante. De plus, en recomposant ensemble dans une œuvre d'art l'histoire, la légende et le mythe, l'auteur de Beowulf était fidèle à la culture même des anciens peuples du nord de l'Europe qui pratiquaient eux aussi un tel mélange, comme l'atteste le passage dans l'histoire plus ou moins légendaire de la figure au départ folklorique de Sigurd, le vainqueur du géant Fafnir. Donc, de ce mélange même qui a été tant blâmé par les critiques, venait la valeur historique de Beowulf. Cette analyse suggère que les créateurs de fiction, du moins ceux qui s'intéressent au passé de la Terre du Milieu, apportent une contribution spécifique à l'histoire, dans la mesure où ils ne cherchent pas à singer les historiens, ni à s'appuyer trop sur eux. Ils sont libres des règles, des contraintes et des catégories discriminantes de la discipline académique. Ce qu'ils perdent en exactitude et en rigueur, ils le gagnent en vision, en intelligence de la perspective, et paradoxalement, ils sont moins anachroniques, car au lieu d'être cramponnés aux méthodes et aux façons de voir de leur propre temps, ils sont capables d'empathie avec les peuples des temps reculés. L'essai sur le conte de Ferry prolonge la réflexion sur la parenté entre histoire, légende et matière fantastique des contes, notamment dans la première section, Origine, Tolkien critique avec beaucoup d'ironie les thèses de trois des fondateurs de la science du folklore à l'époque victorienne, Max Müller, Andrew Lang et George Dassett. Ce dernier, figure éminente des études scandinaves, mais aussi était aussi le défenseur d'une interprétation raciste de la théorie de l'origine indo-européenne des langues et des cultures. Dans la préface de sa traduction des contes populaires du Nord, Dassent exprime sur la relation entre les contes et le passé des pays nordiques des idées que Tolkien qualifiera de salmigondie pseudo-préhistorique. Et Dassen se dispense même de donner des preuves de ses idées au prétexte que le lecteur sera content de manger sa soupe sans demander à voir les os ayant servi à la cuisine. Dans son essai, Tolkien tourne en dérision cette dérobade aussi prétentieuse que piteuse, mais reprend l'image en lui donnant un autre sens. Par la soupe, j'entends moi, le récit de fiction, comme il est servi par son auteur ou son conteur, et par les eaux, ses sources ou son matériau. Il développe alors l'image du chaudron des contes, de ce pot où mijotent toutes sortes de choses, en attendant que d'innombrables générations d'auteurs en tirent de quoi réaliser toutes sortes de soupes, chacune différente et plus ou moins réussie selon le talent du cuisinier. Le mijotage, précise-t-il, dure depuis la fin des temps, et le pot recueille sans discrimination des morceaux plus ou moins délicats et d'origines très diverses. Pour mieux se faire comprendre, il prend un exemple, notant qu'au XIIIe siècle, un motif folklorique correspondant au conte de Grimm, La gardeuse d'oie, l'histoire d'une princesse dont une servante vole la personnalité. Donc ce motif s'attache à la biographie de Berthe au Grandpied, épouse de Pépin le Bref et mère de Charlemagne. Que peut-on en déduire ? Absolument rien, ni sur l'origine du motif, ni sur Berthe. Cette association entre histoire et folklore donc, ne démontre rien, tout simplement que la mère de Charlemagne et l'héroïne du conte sont tombées dans le pot à une date inconnue. On dira la même chose du roi Arthur, qui a appartenu à l'histoire, sans y laisser d'ailleurs une grande trace, et une fois dans le pot, il y a mijoté longtemps, avec beaucoup d'autres figures et motifs plus anciens de la mythologie et de la féerie, et aussi quelques autres eaux égarées venues de l'histoire, comme la lutte défensive du roi Alfred contre les Danois, jusqu'au moment où il en a émergé en roi de féerie. Plus loin est avancée une nouvelle idée, l'élément féerique, entre guillemets, n'est pas quelque chose qui survient et disparaît, il est là, de façon permanente, dans le chaudron des contes, attendant les grandes figures du mythe et de l'histoire, et ces figures d'hommes aussi et de femmes anonymes. C'est cela, dans ce chaudron, où ils seront jetés, ils seront traités sans considération de rang ou de préséance. Donc, le chaudron est donc une immense mémoire où se retrouve tout ce que l'humanité a jamais su sur son passé pour l'avoir mis en récit. Sans être moins authentique, il est moins sélectif et moins ordonné que le savoir historique, puisque c'est au cuisinier qu'il revient de choisir et d'organiser. Et pour cette raison aussi, ce chaudron est beaucoup plus riche et aussi moins influencés par les hiérarchies sociales. Ils donnent leur place aux humbles, aux obscurs, aussi bien qu'aux princes prestigieux. Une première conséquence est tirée qui disqualifie toute tentative, s'agissant des périodes très anciennes, de distinguer strictement une vérité historique d'une vérité mythique. L'histoire ressemble souvent au mythe parce qu'en dernière analyse, ils sont de la même étoffe. Plus loin, Tolkien développe, dans la section fantasy, sa conception de la création littéraire en montrant comment et pourquoi, selon lui, cette création atteint sa forme la plus achevée dans l'invention d'un monde imaginaire cohérent. L'imagination mythopoétique est alors ce qui est au premier plan. Mais l'histoire n'est nullement oubliée. L'épilogue de l'essai affirme que l'horizon ultime vers lequel devraient tendre toutes les fictions, c'est la fusion entre la beauté du mythe, avec la profondeur de sa signification et les émotions qu'il inspire, et la vérité concrète de l'histoire. Cette fusion a eu lieu une fois, et c'est ce que racontent les évangiles. Alors, j'arrive à mon dernier point conclusif. On entrevoit comment l'auteur du Seigneur des Anneaux percevait la relation entre fantaisie et histoire. Il était le créateur d'un monde imaginaire, intimement lié à notre monde, mais ne pouvait viser à reconstituer aucune époque précise, dans la mesure où il se voyait comme un cuisinier, donc appelé à choisir ses ingrédients dans le pot où mijote les éléments divers tombés au cours du temps. Comme le poète de Beowulf, néanmoins, il était un cuisinier doué d'aptitudes spéciales, dans la mesure où il était aussi un érudit avec une vraie curiosité, lui aussi, d'archéologue. L'assiette chronologique que montre l'examen des éléments archéologiquement fondés que l'on trouve, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, est d'ailleurs tout à fait cohérente, bien entendu, si on ne tient pas compte des éléments autres, qui sont beaucoup plus composites et fantastiques, comme les constructions des Hobbits ou bien la cité de Minas Tirith. Les vestiges monumentaux les plus anciens sont des mégalithes, semblables à ceux qui datent dans l'Europe de l'Ouest, de 5000 à 2000 avant Jésus-Christ, l'époque où s'est développée la civilisation humaine sédentaire, de la fin du néolithique à l'âge de bronze. Dans le roman, ils sont les traces d'un passé immémorial, non relaté dans les poèmes ou des chroniques, telle cette double rangée de pierres dressées informes, érigées par des hommes depuis longtemps oubliés, vivant bien avant la fondation de Gondor, qui borde le chemin menant à Donaro et de là jusqu'à l'entrée du chemin des morts sous le Dwemerberg. Bien sûr, rien n'est pur, et au souvenir archéologique s'allie l'invention fantastique, avec parmi les pierres dressées, les Pukelmen, ces statues d'hommes accroupis aux bras croisés, placées à chaque tournant de la route qui serpente, et qui sont des témoins du deuxième âge de la Terre du Milieu. Et les choses étant d'ailleurs plus complexes, puisque l'on apprendra bientôt, lors de l'entrevue de Théoden avec Gan Burigan, l'homme sauvage des bois, qu'il reste des survivants du peuple aborigène qui les a sculptés. Quant aux monuments les plus récents, correspondant à la fois au présent du récit et à un passé à portée de mémoire, il serait datable dans le monde réel de la période s'étendant du 5e au 9e, éventuellement 10e siècle, c'est-à-dire pour l'Angleterre, du début de l'arrivée des tribus anglo-saxonnes après le départ des Romains au règne du roi Alfred, premier roi anglo-saxon à unifier donc les royaumes d'Angleterre. Une correspondance assez précise peut notamment être établie entre les chambres funéraires sous but de l'épisode des Barrow Downs ou surtout les sépultures de Rohan et les tumuli du haut Moyen-Âge germanique dont on a plusieurs exemples en Angleterre, notamment le cimetière anglo-saxon de Sutton Hoo dans le Sussex, qui commença à être utilisé au 7e siècle. On sait que l'un des peuples du Seigneur des Anneaux, qui est celui de Rohan, possède des traits clairement anglo-saxons, à commencer par son langage, mais ici encore, le mélange n'est pas pur. Les cavaliers de Rohan ressemblent à des anglo-saxons, vivent et parlent comme eux, mais leur habitude de combat, donc le guerrier anglo-saxon est un combattant à pied, tandis que les cavaliers de Rohan sont des combattants à cheval, qui les apparentent aux Goths, donc un peuple qui n'est jamais venu en Angleterre et qui appartient à une autre période, puisque ça... c'est plus antérieur, puisque leur période héroïque coïncide plutôt avec l'Antiquité tardive, même s'ils ont survécu plus longtemps. Donc, vous avez ici un tableau de représentation de guerriers, enfin d'un thème lié à des guerriers Goethe, mais dans un tableau du 19e siècle, qui est déjà très mélangé de légendes, puisque le thème est tiré, a été repris et traité dans une saga islandaise. Et donc, il se produit comme un miroitement dû à la superposition, dans le cas de Rohan, de deux temps, mais aussi de deux espaces, au moins, puisque la prairie de Rohan est celle de la Mercy, les mille landes chères à Tolkien, mais aussi les plaines de l'Europe centrale et pourquoi pas les plaines de l'Amérique. Le mélange ne s'arrête pas là, et comme on sait, il y a des écarts bien plus considérables dans le Seigneur des Anneaux, provoqués par des hobbits quasiment victoriens, ou par l'étrangeté presque orientale de Minas Tirith. Cela n'empêche pas le roman d'être comme le miroir d'une grande mémoire de l'histoire de la Terre et de ses habitants, mémoire fantastique et pour autant mémoire véridique.
Merci pour ce retour aux sources et aux textes critiques sur lesquels on cite régulièrement à propos de Tolkien, étendu à son œuvre qui est donc en train de mettre le point final à un dictionnaire de la fantaisie. Je peux attester qu'il est vraiment le plus cité. Enfin voilà, si on doit faire un... Je crois que je vais abandonner l'index parce que Tolkien serait partout. Et que, donc voilà, c'est
Fassime.
Vraiment... c'est ça, Fassime. Alors, moi j'aurais déjà une petite question pour lancer, alors je ne sais pas si c'est celle qui intéresserait le plus, mais déjà tout à l'heure, on a, enfin, d'ailleurs, c'est vous Isabelle qui avez posé la question de cette cyclicité des évangiles, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament comme une des bases possibles de la conception du temps en fantasy, hérité ensuite de Tolkien, enfin par l'intermédiaire de Tolkien, et qui est une piste qu'on suit assez peu. Et du coup, moi, j'aurais bien aimé vous entendre revenir sur cette histoire. Donc, effectivement, Tolkien dit que on a un exemple de fusion entre la beauté du mythe et la vérité de l'histoire, et donc c'est pour lui les évangiles. Mais alors, où voit-il l'historicité de ce texte C'est ça qui me...
Alors pour lui, là, justement, là, bon, il a cette façon chrétienne de considérer que la venue du Christ et la rédemption, c'est nodal de l'histoire et de sa linéarité. Enfin, il est très augustinien à cet égard, donc c'est vraiment simplement. Il a cette idée que, au fond, toute histoire de fantasy, d'une certaine manière, une esquisse, et c'est-à-dire que c'est une histoire qui est à la fois un événement historique complet et un modèle, un type. Donc, c'est-à-dire dont éventuellement toutes les autres histoires peuvent être des ébauches plus ou moins abouties.
Je comprends bien la vérité, enfin voilà, il y a la vérité de l'évangile, mais c'est son caractère, c'est son historicité, ou est-ce que les deux sont synonymes, vérité et historicité, dans ce cas-là?
Ben, c'est-à-dire que là, enfin, c'est ce qu'il dit, c'est de l'historicité au sens basique, datable, c'est le summum de l'événement historique, bon, qui a une signification, qui donne sens, qui prolonge un passé et qui lance un futur, qui de plus institue une sorte de passé de non-retour, c'est irréversible, et en plus qui est absolument attesté comme réalité concrète. Ce qui évidemment n'est pas reproductible.
Alors, une redisparition du micro qui est là. Mais en fait, il repart derrière. Non, parce qu'il s'était attaché à des fils, le président.
Ah, oui, ça ne peut pas se dire.
Ça marche.
Oui, oui, oh, oui, c'est très bien.
Oui, non, excusez-moi, je rebondis sur l'intervention de Anne, je pense. Moi, l'impression que j'ai avec Tolkien, c'est que c'est extrêmement tentant de voir en Tolkien un écrivain qui est aussi un savant, au sens académique du terme. Pour autant, moi, dans l'utilisation qu'il fait, même des concepts proprement académiques, comme celui d'histoire, d'événements, des choses comme ça, l'impression que ça me donne, c'est que c'est quand même un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est un écrivain qui se trouve avoir été aussi professeur d'Oxford. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que lorsqu'il donne des définitions, des choses comme ça, il donne souvent des définitions qu'il arrange pour son œuvre. Hein. Et notamment cette définition. Alors, bon, je ne m'arrêterai pas sur l'évangile, parce que là, on est d'accord, c'est un article de foi. Enfin, il n'est pas suffisamment stupide pour ne pas faire la différence entre un article de foi et un événement historique, Tolkien. Et moi, je trouve quand même qu'il y a chez lui cette tendance à tout ramener à l'édifice du Silmarillion, entre autres du Seigneur des Anneaux, mais entre autres d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une telle maniaquerie de la cosmogonie, en fait, qu'il va concevoir l'objet académique comme étant partie intégrante des concepts qui permettent de fonder une œuvre qui soit une œuvre vraie. Et bon, c'est parce que son concept de vérité, il tient pas debout. Enfin, je veux dire, le seul endroit où dans Unfairy Stories, moi, qu'est-ce qui m'amuse, puisque vous l'avez cité à un moment, le moment où il dit bon, il faut surtout pas qu'il y ait de référence au rêve. Quand on y regarde bien, ceux qui visent à ce moment-là, c'est Lewis Carroll. Lewis Carroll, pour le coup, il s'agit clairement de faire le partage entre littérature et histoire. Et moi, je me demande si quelquefois, on est plus dans une écriture, d'écrivain qui revisite l'histoire à la lumière de son travail d'écriture, plutôt que le mécanisme inverse. Question que je pose.
C'est-à-dire que ça pose le problème de la personnalité académique de Tolkien.
Oui.
Qui est, parce que c'est laissé sur le compte de Ferry, bon, elle s'adresse quand même à des spécialistes du folklore et bon, à des savants, bon, mais en tout cas, l'essai sur Beowulf, c'est vraiment... on a un échantillon du travail scientifique académique de Tolkien. Et alors, il était déjà en son propre temps un peu décalé, disons, par rapport à
ce qui se faisait à l'époque, en fait.
Oui, c'est-à-dire, effectivement, il était, d'ailleurs, il a beaucoup, il était très sensible à la question de l'alliance des langues et des littératures, donc il était très, foncièrement un littéraire, donc intéressé dans la facture littéraire des textes, et avait une tendance à projeter, effectivement, sa conception de la littérature sur la conception de la musique, ce qui ne l'empêchait pas d'être un très sérieux linguiste. Bon, l'essai sur le conte de Ferry, c'est très étrange, il ne parle que des gens du 19e siècle. Bon, alors on est quand même en 1936. Et voilà, donc c'est effectivement quelqu'un qui recompose aussi son monde intellectuel comme il a recomposé son monde créatif. Bon, mais ceci dit, il a sa lecture de Beowulf a ouvert des portes, hein, qui a été reconnue par les spécialistes.
Je passe à qui le micro ? Qui le veut ? Qui l'en veut ?
Faut pas le perdre, faut pas le poser, sinon il revient automatiquement au fond.
Alors, une question, du coup,
pas forcément spécifique là, mais si effectivement on rebondit là-dessus, sur le fait qu'en fait il va proposer son monde intellectuel en fonction de son écriture, qu'est-ce qu'on peut dire de la division dont on a parlé avant entre monde primaire et monde secondaire, et la condamnation littéraire comme monde secondaire, si ce n'est que c'est son invention en fonction de ce que lui disait, à quel point c'est pertinent finalement d'utiliser cette séparation aujourd'hui, cette manière de penser, donc c'est pas ce qu'on veut là au panier.
C'est un peu schématique et c'est contradictoire avec la notion qu'avait Tolkien, qui était de cette notion de l'arbre. Bon, il se voyait comme c'est-à-dire qu'il avait un sens très très aigu, que de toute façon son monde imaginaire sortait de sa tête, donc d'une personne qui vivait dans le monde réel. Donc on le voit très très bien dans les problèmes qu'il a eu avec la cosmologie de la Terre ronde, quand il a pris conscience que, vu ce qu'il était, c'était totalement artificiel de faire comme si il ne savait pas que la Terre était voilà. Donc bon, il avait besoin de, enfin, dans, c'est effectivement monde primaire, monde secondaire, c'est un schéma pour modéliser, mais je pense que dans la réalité de son expérience, il savait très bien que ça ne se passait pas comme ça.
Et puis c'est justement, on a rappelé ce matin que qu'il en était venu là après avoir testé un certain nombre de démarches ou de procédés possibles pour relier les deux. Il y a aussi des projets de science-fiction les archives des œuvres de Tolkien, donc des diverses, oui, avec des voyages dans le temps en fait, et voilà. Donc il a beaucoup réfléchi sur la manière dont il pouvait justement relier le monde les deux mondes pour finir par le faire assez, oui, peu, sinon par effectivement des espèces de passages cosmologiques vous avez déjà parlé.
Oui, oui, il y a une ambiguïté profonde. Hein,
c'est une question qu'il a beaucoup travaillé.
Et qu'en fait, ces deux mondes sont très, très dans un mariage continu.
Il y a l'histoire de la route, dont on parle des histoires de cosmogonie, c'est l'histoire de route qui permet de passer de route céleste, qui permet de passer d'un monde à l'autre, qui est une espèce de raccord entre deux conceptions du plat et du rond pour mener d'un espace à un autre, et qui est une bonne image des espèces de transitions un peu baroques auxquelles il a pu être amené.